J'aimerais vous poser une question et apporter ce message basé sur un verset de la parole. C'est « Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? » Et dans une société où ce qu'on est confus, totalement confus, où on a de la difficulté à se rappeler qui est quoi, il est bon de porter nos regards sur la parole de Dieu, source de vérité que même l'intelligence artificielle ne saura pas corrompre. Cette vérité demeurera éternellement. Et elle doit littéralement être notre rocher, notre fondement. Et on doit littéralement passer du temps dans cette parole pour bien la comprendre, bien la saisir, selon l'intention de l'auteur lui-même, le Saint-Esprit de Dieu, afin d'être fortifié dans notre foi et de combattre ce bon combat de la foi jusqu'au jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, où enfin ce combat sera terminé. Amen. Gardons cette foi. Et lorsque je me réfère à l'homme, évidemment, pendant ce message, je fais également aussi référence à la femme. Non, vous n'êtes pas exclus. On va lire ensemble le psaume 8, versets 3 à 7. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, Psaume 8, verset 3, « La lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, verset 8, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Seigneur, on te prie de bénir cette parole inspirée du Saint-Esprit et encore pertinente aujourd'hui en 2025. On te prie que tu puisses la bénir, toucher nos cœurs et que ton nom en soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Et tous ont dit?
Amen.
Gloire à Dieu. Évidemment, ce texte-là nous pose, comme je le disais, une question fondamentale. Si on considère l'immensité de l'univers, le nombre infini de galaxies, de planètes, d'étoiles de toutes sortes, et plus la science avance, plus on réalise que cet univers, il est immense. Et quand on considère la diversité de la création, le nombre infini d'espèces animales, d'espèces végétales, les insectes, oui, ces mouches que l'on n'aime pas, quand on considère le grand nombre devant notre petitesse face à tout ce qui a été créé de matériel, de principauté, de domination, David, dans ce psaume, se pose la question: qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Et de façon plus pointue, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne soin de lui? Qu'est-ce que l'homme, évidemment, sous-entend, qu'est-ce que l'être humain pour que Dieu se soucie de lui? Qu'est-ce qui démarque l'être humain si largement de toute autre espèce vivante? Et aussi, ça peut en venir à cette question ultime, plus personnelle: qu'est-ce que l'homme? Mais qui suis-je? Et cette question, elle est fondamentale parce que la façon dont on s'identifie comme créature de Dieu ou non, comme homme, détermine la façon qu'on perçoit les autres et la façon dont on traite les autres. Qu'est-ce que l'homme? Et selon ce qui est enseigné aujourd'hui dans nos écoles, et selon la majorité de gens qui nous entourent, et selon même une citation que j'ai été chercher sur le Musée national d'histoire naturelle de Paris, je cite ceci: selon eux, un humain est un animal faisant partie des primates et plus particulièrement des grands singes ou hominidés qui est bipède et dont le corps s'est adapté à cette bipédie. Notre espèce fait partie des primates, un groupe dont les caractéristiques communes comprennent le fait que le cerveau soit assez gros, avec des asymétries, des yeux à l'avant de la face et une vision en 3D. Le trait commun le plus connu est celui du pouce, opposé aux autres doigts, qui permet de saisir des objets en forme d'une pince. Ainsi, nous faisons partie des primates au même titre que les babouins, les chimpanzés, les gorilles et autres. Fin de la citation. Selon cette définition, je suis juste une grosse gorille avec un gros cerveau, avec deux trous en avant pour voir, avec des pouces pour faire des likes, puis un pouce pour ramasser des affaires quand mon pouce n'est pas occupé à faire des likes. Je suis juste une grosse babouin. Je suis simplement un ramassis de cellules assemblées ensemble de façon aléatoire sur une longue période de temps et qui a donné ceci. Placé sur une planète pour être une grosse gorille et évoluer en compagnie d'une multitude d'espèces de plantes, d'insectes, d'oiseaux, d'animaux terrestres et marins interdépendants, tout ça par pur hasard. Une planète qui flotte dans un univers ordonné au poil, au millimètre. Tout ça pour séjourner sur cette terre-là à peu près un siècle et finir comme de l'engrais pour les plantes. Retournant à la Terre. Et selon les évolutionnistes matérialistes, l'évolution se produit afin d'améliorer l'espèce en évolution. Ben, si c'est ça l'évolution, évolue-tu seul? Je veux plus évoluer. Qu'est-ce que l'homme? Mais selon la vision chrétienne, notre identité, l'homme, n'est pas le résultat d'une évolution aléatoire sans intelligence. Mais l'homme et toute la création a été pensée, a été conçue, a été créé par un être tout-puissant qui vit en dehors de cette création, un être omniscient, un être ingénieux, un être ordonné, un être créatif, un être, un artiste hors pair, un être précis au poil, un grand architecte, un être équilibré, un être complexe que je ne peux pas saisir la profondeur de sa complexité, un être rempli d'amour, un être au-dessus de toute chose, un être par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Et j'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ de gloire, le Roi des rois, le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le grand je suis, l'Abba-Père, le Créateur de toutes choses, celui qui a pensé toutes choses, c'est Jésus le Créateur de toutes sortes, de toutes ces choses, Jésus-Christ, le bon Père. Et selon la vision chrétienne, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 26 nous dit ceci, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Selon notre ressemblance. Vous voyez, le « notre » de la Trinité? À travers les siècles, les érudits ont cherché à percer le mystère de cette affirmation. Le psalmiste a posé la question « qu'est-ce que l'homme? » Les philosophes, les théologiens, les psychologues, les anthropologues ont constamment cherché à comprendre, à approfondir, à explorer ce sujet. Mais tous les explorateurs sincères curieux de cette question et honnête, qui se laisse conduire là où les évidences les amènent, en vient à une conclusion simple et précise, qu'au-dessus de tout cela, il y a un être tout-puissant qui a pensé à tout cela. Un être admirable, un être complexe. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible déclare. Il nous a créés comme une créature merveilleuse et admirable. Psaume 138, verset 13, 139, verset 13 à, 18, à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que tu reconnais ce matin que les œuvres de Jésus-Christ, les œuvres du Dieu Tout-Puissant sont admirables? Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits, tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je note ici que le mot image, ni le mot image, ni le mot ressemblance n'implique que l'être humain est divin, que l'homme est un petit Dieu. Je dis cela parce que ça court dans certaines églises, que nous sommes de petits dieux, que ma parole est équivalente à la parole de Dieu, que ma parole est aussi créatrice que celle de Dieu. Ce n'est pas le cas. Non! L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et avant la chute, il a été créé pour vivre éternellement et de peu inférieur à Dieu, selon le verset 5 qu'on a lu. Mais les êtres humains ont le pouvoir de penser, d'agir, de créer, d'analyser, de réfléchir, même sur des sujets abstraits. Et tout comme Dieu, les humains sont des êtres spirituels. Et oui, cette parenté spirituelle fait en sorte que nous avons besoin d'être connectés avec Dieu pour vivre cette spiritualité-là, pour communier avec notre Créateur. Mais non, nous ne sommes pas des dieux. Mais bien que non divins, les hommes et les femmes se distinguent de toutes les autres espèces de la création. L'être humain est le seul être vivant qui est vraiment le souci de la connaissance. Il est intellectuellement supérieur à toutes les autres espèces évidentes sur la terre. L'être humain est un être exceptionnel. Il a la capacité de langage qui lui est propre. Oui, l'animal fait des sons, mais son son n'évolue jamais, alors que le nôtre, notre langage, évolue. L'homme est le seul être vivant à se bâtir une histoire. Avez-vous déjà lu l'histoire des éléphants? Non, parce qu'il n'y en a pas. Plus les siècles, plus les millénaires passent, plus les connaissances de l'humanité augmentent et se transfèrent d'une génération à l'autre, de façon verbale initialement, de façon écrite et de façon visuelle par l'image. Alors que les animaux, de génération en génération, se contentent de répéter les mêmes tâches avec peu de variance et de façon instinctive, préprogrammée. C'est ce qu'on appelle l'instinct animal. Les animaux n'ont pas d'histoire, l'homme, oui. Depuis l'Antiquité, les philosophes ont remarqué une différence de nature entre l'homme et l'animal, et pas simplement une différence minime entre l'homme et les autres vivants, c'est-à-dire que l'homme n'est pas seulement un animal, mais il est une espèce à part, supérieure à l'animal. Et cela n'est pas le résultat d'une évolution, c'est le résultat de son origine créée à l'image de Dieu. Il y a le genre animal, il y a le genre humain. Il y a une large différence entre les deux. Il y a une coupure nette entre l'homme et les animaux. De plus, les humains sont des personnes. La Bible décrit les humains comme des entités conscientes, volontaires, innovantes, qui, sous l'autorité de Dieu, gouvernent sur leur environnement. En fait, nous sommes des individus, oui, mais en plus, nous sommes des personnes à part entière, uniques. Dieu a fait chaque homme, chaque femme, une personne à l'image de sa propre personne. Et non, nous ne sommes pas un animal plus évolué, mais nous sommes un être créé à l'image de Dieu. Nous sommes des personnes avec une personnalité. Et rien d'autre dans la création ne peut être qualifié de personne. Mon chien, bien que je l'aime beaucoup, que je passe beaucoup de temps avec lui, c'est pas une personne. Ça paraît bizarre de dire ça. Mais l'autre jour, il y avait cette jeune fille à la télé qui disait « Je dois apporter ma personne non humaine chez le vétérinaire. » Confus ou quoi? Un homme, une femme est une personne. Corps, âme et esprit, comme Dieu est un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et tout comme Dieu est unique, chaque être humain est un être original et unique. J'ai manqué à dire un être original. Parce que la chasse s'en vient bientôt, là. Les humains sont des personnes uniques. Ce matin, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es unique. Tu es une personne. Tu es spécial. Et tu as ta place sur cette terre. Et peu importe ce que les autres pensent de toi, tu es une personne spéciale, unique, créée à l'image de Dieu. Et Dieu a du care pour toi. Tu es importante aux yeux de Dieu. Vous êtes unique. Il n'y a pas deux Dany. Et tous vous dites, Amen. Je savais que vous diriez ça. Je l'avais même écrit sur ma feuille. Tu es unique. Et tu es soit un homme, tu es soit une femme. L'apparence, les sentiments, le changement de pronom, la chirurgie, rien de tout cela ne change la vérité révélée dans la parole de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Chromosome XX pour les femmes, chromosome XY pour les hommes. Et cela, il n'y a rien qui peut le changer. Et bien que j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour les personnes qui mènent ce combat identitaire, je crois que la seule thérapie affirmative qui va les toucher dans leur cœur, c'est affirmer la vérité de Dieu, affirmer la parole de Dieu, que le meilleur plan pour ta vie, c'est demeurer selon ce que Dieu t'a créé, homme ou femme. D'affirmer ce que la Bible affirme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Homme et femme, il créa à l'image de Dieu. Trois fois, je le dis. Le fait que nous soyons créés à l'image de Dieu, c'est une vérité fondamentale. Parce que c'est à partir de cette image de Dieu que l'homme et la femme portent en elle qu'ils tirent sa valeur. Et le fait que l'humain porte l'image de Dieu lui donne toute sa valeur. Et je vais vous illustrer quelque chose. Combien vaut cette feuille de papier? Rien. Rien. Et blanc. Je vais juste faker, là. C'est pas tout à fait réel. Mais bon. Combien vaut cette feuille de papier? Il y en a que les yeux les agrandissent, là. Combien vaut cette feuille de papier? Cette feuille de papier, vous comprenez que c'est une copie, mais si ça n'était pas une, elle vaudrait 1 000 $. Puis, si vous ne me croyez pas, là, mais je vais vous le dire pareil, là, si c'était ma photo, ça en vaudrait 5 000. Excusez-moi. Ça vaut 1 000 $. Pourquoi ça vaut 1 000 $? Parce que l'image de celle qui règne sur notre pays est sur ce morceau de papier. Et ce morceau de papier, même si je le chiffonne, combien vaut-il? 1 000 $. Si je l'écrase, combien vaut-il? Peu importe qu'on t'ait chiffonné, qu'on t'ait pilé dessus, qu'on t'ait dominé, qu'on t'ait fait souffrir, sache que tu vaux beaucoup aux yeux de Dieu parce que son image est en toi. Peut-être qu'on t'a écrasé, qu'on t'a piétiné, qu'on a ri de toi, mais la valeur que tu as aux yeux de Dieu demeure la même. Et moi, j'ai travaillé dans une banque toute ma vie. Puis des billets usagés, on en a. Puis à un moment donné, il y a un processus pour les retourner à la Banque du Canada. On appelle ça des billets « stale dated ». Ils sont trop vieux pour être en circulation. Mais moi, là, si j'avais pris ces 1 000 $-là qui ne valaient plus rien, là, puis je l'avais jeté à la poubelle, qu'est-ce qui est arrivé? J'aurais perdu 1 000 $. Mais si je le retourne à l'imprimeur, à lui qui l'a créé, à lui qui l'a imprimé, il vaut toujours 1 000 $. Ils vont m'envoyer un 1 000 $ flambant neuf. De la même manière, seul le Créateur peut donner de la valeur à un individu. C'est lui qui donne la valeur à l'individu. C'est lui. Donc, nous, on n'a pas le droit d'enlever la valeur d'un individu de la conception à son décès. On ne peut pas décider, je ne vais pas le faire venir au monde. Il y a l'image de Dieu sur lui. Ce n'est pas à moi de décider ça. Et ce n'est pas à moi, en fin de vie, de les envoyer se faire piquer pour les faire mourir comme on le fait présentement dans notre société avec une culture de mort où on débarrasse des humains. On oublie que Dieu et Dieu seul a le droit sur la vie. Nous n'avons pas ce pouvoir car nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu as de la valeur. Et l'humain est la seule créature qui est capable de choisir, de façonner sa vie, d'user d'imagination, de créativité. Les animaux vivent dans un cadre bien précis qui se nomme l'instinct. Ils ont pour seul fil conducteur la survie, manger et se reproduire. Oui, le castor, il fait des beaux barrages. Il fait tout le temps le même. L'animal n'a que pour seul choix sa prochaine proie qu'il dévore après l'avoir volée au plus faible sans aucune forme de culpabilité parce que l'animal n'a pas de loi morale. Alors que l'homme peut se nourrir en choisissant de venir voler ma banane de grosse gorille, mais il va se sentir coupable après. Pourquoi? Parce qu'il a l'image de Dieu en lui, la loi morale imprimée en lui, et il se sent coupable. L'animal n'a pas cette culpabilité. Parce que nous avons été créés libres, et non pas pré-programmés comme l'animal. Les humains sont des personnes autonomes, avec une libre volonté, et Dieu nous a dotés de liberté pour diriger notre propre vie. Cette liberté inclut la liberté de dire oui à Dieu ou de dire non à Dieu. On n'est pas préprogrammé à aimer Dieu. Ce ne serait pas l'amour. Des fois, on se pose la question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et l'a laissé choisir le mal? Parce que s'il avait forcé à choisir le bien, il l'aurait préprogrammé et le vrai amour s'exerce dans une volonté totale. Thérèse, j'aurais pas pu te dire, je te force à aimer Émilien. Émilien, la même chose. tu l'as vu, tu as trouvé quelque chose, oh, polaï! Tu l'as aimé de façon libre. La même chose pour nous vis-à-vis Dieu. On doit le choisir avec notre propre volonté et on n'a pas été préprogrammé à l'aimer, sinon nous serions comme des animaux opérant strictement dans un cadre préprogrammé par Dieu. On a cette liberté, et cette liberté qui inclut la liberté de dire non à Dieu, de vouloir diriger sa propre vie, loin de Dieu, loin des principes moraux de Dieu, de suivre sa propre voie, et ce désir de vivre sans reddition de compte est ce qui a tenté l'homme, c'est ce qui a causé sa chute dans le jardin d'Éden, et ce désir sans rendre de compte à personne est ce qui empêche encore aujourd'hui, en 2025, plusieurs personnes de céder à Dieu parce qu'ils veulent continuer à vivre sans avoir à rendre des comptes. Ce n'est pas qu'ils sont athées, qu'ils ne croient pas, mais ils n'aiment pas l'idée d'avoir un Dieu à qui ils doivent rendre des comptes. Adam et Ève, représentant la race humaine, ont désobéi à Dieu et ont troqué leur nature sainte, pure, dans une relation parfaite avec Dieu, à l'image de Dieu, pour une nature pécheresse. Ils ont troqué leur position de peu inférieur à Dieu à inférieur aux anges. Et à cause de ce péché originel, tout homme né depuis Adam et Ève, né avec une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse en nous fait en sorte que nous sommes enclins à vivre dans le péché. Nous sommes donc tous pécheurs. Romains 5, 19 nous dit « Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Et cette nature pécheresse est ce qui explique que je suis pécheur. Cette nature pécheresse, issue du péché originel, c'est ce qui explique mon péché en 2025. Je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire, et je suis comme l'apôtre Paul, quoique j'y vois juste à la cheville, déchiré dans mon intérieur à cause de cette nature pécheresse qui nous habite. Et tout comme Adam et Ève furent chassés de la présence de Dieu, l'homme encore aujourd'hui naît pécheur, naît séparé de Dieu, naît idolâtre, naît mort par ses offenses et par ses péchés, naît sans espérance, sans Dieu dans le monde, naît comme une brebis errante, marchant selon ses propres voies, destiné à mourir d'une mort physique, oui, mais pire encore, à une mort éternelle, séparé de Dieu, éternellement, dans un endroit de noirceur, de souffrance éternelle, un endroit de ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, nous dit 2 Thessaloniciens 1:9. Un endroit où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Et cet endroit se nomme enfer. La géhenne, endroit de souffrance éternelle. Voilà la mauvaise nouvelle. Voilà qui est l'homme. Qui est l'homme? L'homme est un être pécheur qui se dirige vers une éternité séparée de Dieu. Tout cela est vrai. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, l'enfer existe. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas à l'enfer auront l'éternité pour en détester et en comprendre son existence. Ouais, mais voyons, les bonnes personnes, je ne suis pas une mauvaise personne. Oui, mais malgré les actes de bonté, tous demeurent, par nature, pécheurs. Et malheureusement, la majorité des gens pensent que la bonté, c'est suffisant. Toute forme de religion confondue, excepté la chrétienté réelle, pense qu'un jour, lorsqu'ils vont quitter cette terre, ils vont s'en aller sur une grosse pesée. Et ils espèrent que leurs bonnes œuvres vont être plus lourdes que leurs mauvaises œuvres et ainsi entrer dans la présence de Dieu. Et même du temps de Jésus, cette pensée était répandue. On voit ça dans Marc 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu feras à toute personne, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Et voilà la phrase clé, « Viens, suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en retourna tout triste, car il avait beaucoup de biens. Et pour lui, cet homme, ce n'est pas sa richesse, ni ses biens nombreux qui l'ont empêché de suivre Jésus-Christ, c'est l'amour de la richesse et l'amour de ses biens, plus que Dieu, qui l'ont empêché de suivre Jésus-Christ. Il quitta triste, bien qu'il ait observé, selon lui, les standards moraux de Dieu. Il aimait mieux garder ses biens que de suivre Jésus. Son cœur a été dévoilé par Jésus. Son amour pour ses biens, plus grand que son amour pour Dieu, nous confirme que l'homme riche, qui se pensait bon, n'était en fait pas parfait. Et oui, c'est ce que la Bible nous annonce, le prérequis pour rentrer au paradis, c'est la perfection. Hein? La perfection pour entrer au paradis? Ben là, t'es malade, j'ai aucune chance, moi non plus. Exactement. Exactement. Par mes propres moyens, je n'ai aucune chance. Par tes propres moyens, tu n'as aucune chance. Mais Dieu, oh, on le dit ensemble, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Le bill de 1000$, tu t'en souviens-tu? Même chiffonné, même piétiné, il a encore de la valeur aux yeux de Dieu. Et notre image de Dieu en nous avait tellement de valeur que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mort pour nous, comme deuxième Adam. Le premier Adam a failli. Mais le deuxième Adam, dans toute sa puissance, sa pureté, sa sainteté, a réussi. Il a vaincu le péché. Et Dieu a tant aimé l'homme et la femme à son image. Cette image qui nous donne une valeur unique et inestimable, qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque mette sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il ait l'assurance de la vie éternelle, dont nous passerons l'éternité avec lui si nous recevons Jésus-Christ et acceptons qu'il est mort à notre place, qu'il a payé notre dette. Cette même autonomie qui a fait en sorte qu'Adam a choisi la mort par sa désobéissance, cette même autonomie, cette libre volonté nous permet de choisir la vie en mettant notre confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ ne sont plus seulement qu'une créature à l'image de Dieu. Ils deviennent, oh gloire à Dieu, enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ceux qui mettent leur foi, leur confiance en Jésus-Christ deviennent parfaits aux yeux de Dieu. Je dis souvent à ma femme, je suis fier que tu n'es pas Dieu. Parce que je ne serai jamais parfait à ses yeux. Mais aux yeux de Dieu, je suis parfait. Non pas par mes propres mérites, non pas par ma bonté, non pas par mes œuvres, mais par Jésus-Christ. Ceux qui mettent leur foi, leur confiance en Jésus-Christ deviennent parfaits aux yeux de Dieu, deviennent justes devant Dieu, non pas par leurs propres mérites, mais par les mérites de Christ. 1 Corinthiens 6:11 nous dit, « Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ceux qui mettent leur foi, leur confiance en Jésus-Christ deviennent co-héritiers avec Christ. Nous sommes enfants du royaume. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Moi, j'ai eu un petit héritage de mes parents. Mais j'ai eu un grand héritage de mon Père céleste. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes en dedans, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ceux qui mettent leur foi, leur confiance en Jésus-Christ sont également appelés à marcher dans la lumière. Éphésiens 5:8 nous dit, autrefois, vous étiez des ténèbres, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ceux qui mettent leur foi, leur confiance en Jésus-Christ sont appelés à marcher dans la sanctification, dans ce chemin étroit et resserré. Dans la confession de nos fautes, dans le détournement de nos fautes. On ne fait pas un 360, c'est trop, ça étourdit. On fait un 180. On se détourne de nos voies. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur, nous dit Hébreux 12:14. Le salut se produit de façon instantanée sur une confession de foi. Mais la sanctification, c'est un processus graduel. Nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. On s'enfarge, mais on recommence. On confesse nos fautes, mais on continue. On n'abandonne pas. Et on ne juge pas trop sévèrement les autres non plus. Le salut demande de la foi, la sanctification demande de l'abandon. Seigneur, je m'abandonne à toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Le salut, c'est complet. Tu es sauvé. La sanctification, c'est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu, refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Le salut enlève la pénalité que mérite le péché, mais la sanctification résiste à ce désir que nous avons de pécher. Le salut, c'est Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La sanctification, c'est Dieu qui, par son Esprit, nous aide à vaincre les désirs de la chair, présente dans ce royaume des ténèbres, afin qu'on atteigne la ressemblance de Christ. Afin que lorsque notre heure arrive, nous puissions rentrer à la maison. Et cela va se faire, je ne le ferai pas parce que vous savez où je vais aller me ramasser, un pas dans l'éternité. Daniel 7, 18 nous dit, « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » En éternité, en éternité. Qu'est-ce que l'homme? Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis une créature distincte de tout autre vivant, être vivant sur cette terre. Je suis créé par Dieu à son image. Je suis une créature merveilleuse, quoi que vous en pensiez, créée pour communier avec Dieu. Je suis une personne. Je suis un homme ou une femme, selon votre corps. Je suis descendant d'Adam et Ève. Je suis pécheur. J'ai hérité de la nature pécheresse d'Adam et Ève. J'ai grandi séparé de Dieu à cause de ma nature pécheresse. Je me dirigeais vers la mort éternelle, vers la souffrance éternelle, vers la noirceur éternelle, vers l'absence de toute forme de beauté, vers le regret éternel séparé de Dieu éternellement. Puis un jour, j'ai pris conscience de la mauvaise nouvelle, du sort qui m'attendait. Et c'est comme ça qu'en 1987, dans cette église même, j'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai reconnu que Jésus-Christ avait payé la dette de mon péché. Je me suis abandonné à lui. Je suis né de nouveau. Et depuis toutes ces années, j'essaie de mon possible de le servir, de le suivre, de l'aimer, gardant les yeux fixés sur la promesse glorieuse, notre espérance vivante du royaume éternel à venir. Muni d'une libre volonté, convaincu par le Saint-Esprit et son œuvre dans mon cœur, j'ai choisi de mettre ma confiance, ma foi en Jésus-Christ. Et non, cette foi n'est pas aveugle, elle est historique, elle est archéologique, l'histoire le démontre, que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et je suis cet homme, Gary Habermas, un scientifique sceptique qui a débattu contre la foi chrétienne, qui a dévoué 40 ans de sa vie à chercher les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Et il vient de pondre 4 volumes pour 1200 pages de preuves biblique et extra-biblique de la résurrection de Jésus-Christ. Notre foi n'est pas une foi folle, elle est réelle. Nous ne sommes pas un petit culte, une petite secte qui croit aveuglément. Non, notre foi, elle est vraie, elle est réelle, elle est puissante par des vies transformées, par des vies changées, par la joie qu'il nous donne, par le fait qu'il nous relève. Jésus-Christ, il est vivant encore aujourd'hui, en 2025. Et à cause de cette décision, je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Hey, vous êtes mes frères et sœurs! Certains d'entre vous disent, oh, non, pas mon frère. Oh. J'ai été transporté du royaume des ténèbres au royaume de son amour et de lumière. Hey, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'ai été lavé, sanctifié, j'ai été transformé, j'ai changé de direction, je marche plus dans le péché, il m'a délivré de certaines choses, certaines autres choses j'ai dû abandonner de ma propre volonté. Et parfois, oui, je trébuche, mais si je lui confesse mes fautes, il m'en détourne, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Par les mérites de Christ, je suis justifié. Je suis co-héritier avec le Fils. Je suis dans l'attente glorieuse du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Le jour de la délivrance, oui, il approche. Et toi, qui es-tu? Fils d'Adam ou fils du deuxième Adam? Fils de la rébellion ou fils de l'obéissance? Où seras-tu pour l'éternité? Et j'avais un ami de Québec la semaine dernière à la maison, un homme éduqué, doctorat en économie, grandes universités, un gars de bonne vie. Et ce que je lui disais, c'est ceci. On passe 15, 17 ans à préparer une carrière qui va durer 30 ans, qu'on va passer à se préparer pour une retraite qui va durer 20 ans. Mais que fais-tu pour te préparer pour l'éternité? Que fais-tu? Où seras-tu pour l'éternité? Ouais, mais il y a beaucoup de religions qui... Non! Que feras-tu de Jésus-Christ? Et où seras-tu pour l'éternité? Moi, j'ai choisi de mettre ma confiance en Jésus-Christ. Oh, c'est juste de la foi, on ne le voit pas vraiment. Ah ouais? Tu penses que ça ne prend pas de la foi pour croire qu'à partir de rien, tout cela est apparu? Toute vie vient d'une autre vie. Derrière un ordinateur, il y a un informaticien. Derrière un hamburger, il y a un cuisinier. Derrière une création, il y a un créateur. Ce Jésus qui un jour rétablira toute chose, qui par sa mort et sa résurrection en tant qu'homme redonnera à l'homme la place qui lui revient, c'est-à-dire de régner avec Christ. Dans un endroit de justice, de bonté éternelle, dans la présence de l'Éternel des armées. Celui dont le peuple juif ne voulait même pas prononcer son nom, nous serons avec lui pour l'éternité si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ. Courbons nos têtes, musiciennes, musiciens, chantres et chanteresses, venez pour un chant. Merci ce matin que tu nous rappelles par ta parole qui nous sommes. Nous sommes des êtres créés à ton image. Nous sommes des êtres qui avons désobéi à toi, mais nous sommes également des êtres qui avons mis notre confiance en celui qui a pris la place du premier Adam, qui s'est présenté comme le deuxième Adam. Nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Et à cause de cela, nous avons été restaurés dans notre communion avec le Dieu créateur. Et ce matin, s'il y a des gens qui n'ont jamais mis leur foi en Jésus-Christ, je vous recommanderais de prier avec moi, Seigneur Dieu. Je reconnais ce matin que je suis un être imparfait, que j'ai commis des fautes, que j'ai désobéi à ta loi morale. Mais j'ai entendu ce matin la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a pris ma place, qui est mort, qui a payé la dette de mon péché, la pénalité que méritaient mes fautes. Il l'a pris sur lui. Je mets ma confiance en Jésus-Christ et je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. J'accepte cette invitation de devenir enfant de Dieu, de me joindre à la famille des enfants de Dieu et de vivre aujourd'hui pour plaire à celui qui a tout donné pour moi, dans la sainteté, dans l'attente du retour glorieux de Jésus-Christ dans toute sa gloire, ou du moment où je quitterai cette terre pour entrer dans l'éternité. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus.